créations graphiques sont partout. Dans la rue, sur votre smartphone, votre livre de chevet et j'en passe. Le but de ce podcast est de décrypter, de saisir la manière dont les marques et les créatifs entrent en résonance avec leur public. Au-delà des considérations esthétiques, nous souhaitons remettre en mots ce qui a été mis en image. Comment de l'idée passons-nous au sensoriel? Comment de la sémantique passons-nous au visible? La force des images est de rendre instantanément intelligible toute idée en se passant de longs discours. Alors pour cet épisode, nous posons nos valises dans l'atelier du street artiste amiénois Romain Doré. Donc bonjour Romain.
Bonjour.
Bienvenue dans La Potion. Donc dans ce podcast, nous invitons un dirigeant ou bien un créatif à nous parler de sa relation au graphisme et aux différentes formes de production visuelle. Notre but est de comprendre comment faire sens et provoquer l'essence du regardeur. Pour cela, chacun a sa petite potion et nous allons alors tenter de comprendre aujourd'hui quelle est la tienne. Donc je pense qu'on va commencer par te présenter. Est-ce que tu peux te présenter, revenir sur ton parcours, peut-être même dès ta naissance si tu veux. T'es né en 89.
Ouais, c'est ça, je suis né en 89, ici à Amiens. J'ai vécu les 20 premières années de ma vie à Étouvy.
D'accord.
Et ensuite, bon, je suis revenu au centre-ville. Côté artistique, ça a toujours été plus ou moins mon dada, on va dire, étant jeune. Et c'est après le lycée que j'ai décidé de me lancer à la fac d'art et de devenir professionnel du monde de l'art en tant qu'artiste.
D'accord. Donc ta vocation, c'est quelque chose que tu as en toi depuis avant la fac, en fait?
Ah oui, clairement. Quand j'étais petit, je regardais les Pokémon et je les dessinais en même temps, quoi. C'est le genre de choses, quoi. Et je les refilais après mes copains d'école pour qu'ils puissent colorier le dessin.
Donc peut-être avant de revenir directement sur ton œuvre, est-ce que tu peux nous parler de tes inspirations? Que ça soit dans la vie de tous les jours, même pour ton travail.
Ça marche.
Est-ce que tu as des artistes favoris ou des choses qui t'inspirent, même d'autres, que ça soit dans n'importe quel domaine? J'ai pu noter quelques noms comme Warhol, Pollock, C215, etc. Ça, c'est des choses qui sont très marquées dans ton travail,
ouais,
mais
voilà.
Au-delà de ça, peut-être que tu as d'autres...
En fait, voilà, ça dépend de ce qu'on regarde dans ma toile. Le fond, ça va surtout être, comme tu disais, Pollock, avec un côté très abstrait. Et du coup, par-dessus les thématiques que j'exploite, là, ce sera plus dans les univers de street artistes, de bande dessinée, de pop art, tous ces univers assez figuratifs qui vont s'ajouter à un fond très abstrait.
Et moi, j'aurais aimé savoir, parce que tes inspirations, voilà, et ton goût pour l'art, t'es venu de la culture pop. En premier, tu disais de ces comics, de ces dessins animés, lorsque je pense que tu as étudié, tu as découvert plein d'autres artistes, leur façon de faire. Mais moi, j'aimerais revenir avant tout ça, de savoir quelle est, je pense, dans la... soit la télévision ou dans la rue, quelle est la première image qui t'a marqué? Est-ce que tu as en tête quelque chose qui t'a dit... t'as fait comprendre le pouvoir, tu sais, des images, que ce soit une pub ou un poster ou peut-être aussi un animé ou une BD, quelque chose qui t'a marqué pour la première fois, en fait?
Ouais, je pense, comme je disais tout à l'heure, ça a été les Pokémon.
Ouais, les Pokémon.
Vraiment, les Pokémon, quand j'ai dû avoir 8-10 ans, où ça s'est commencé à arriver en France, avec les dessins animés, la Game Boy, avec les jeux vidéo. Et voilà, ils étaient des images faciles à dessiner. Tous les gamins pouvaient plus ou moins arriver à le dessiner, donc ça a été vraiment le départ de ma création et de la façon dont j'appréhendais le graphisme et la peinture.
D'accord. Et c'est le dessin animé que tu as découvert en premier ou
le
jeu vidéo?
Je pourrais pas te dire exactement, c'était plus ou moins à peu près à la même époque.
Ouais.
Mais ouais, ça doit être l'un après l'autre, quoi. Alors, dire qui a fait quoi en premier, je pourrais pas te dire.
Très bien. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir parler directement de ton œuvre. Donc, j'ai pu observer en regardant tes différents travaux que tu as une évolution assez régulière et on va dire très fractionnée par année. On peut peut-être revenir par année à peu près sur ton travail pour voir un peu comment ça a évolué et peut-être aussi toi apporter des précisions sur les thèmes que tu abordes, pourquoi tu as fait tel choix à ces moments. Tes premiers travaux, en l'occurrence ceux que tu as publié, je ne sais pas s'il y a eu des choses avant 2015.
Il y en a eu un petit peu. Ça a été, au début, en fait, je faisais ce qu'on appelait du paper cut. Voilà, c'est toujours aussi sur l'univers des comics. Je j'ai découpé les silhouettes et je les assemblais les uns sur les autres pour avoir un effet de relief. Mais oui, après, ça a été différent, c'était en dilettante, voilà, c'était plus en tant qu'amateur, je m'amusais pendant mes heures de fac à faire des sortes de choses. Mais vraiment, les peintures, comme considère comme mes premières peintures, c'est 2015, fin 2014-2015, quoi.
Donc dans ces premières peintures, c'est un peu la même fonction, la même façon de présenter. Tu présentes beaucoup de groupes. Et tes peintures, voilà, c'est des grosses masses de personnages assemblés. Qu'est-ce qui t'a poussé à rester dans cette lignée et de faire ainsi, en fait? Est-ce que c'est pensé ou est-ce que c'est peut-être dans tes débuts, tu as voulu éjecter tout ce que tu avais besoin, de tout mettre sur cette toile, parce que par la suite, tu t'as épuré ton style, c'était très centré sur une icône en particulier. Parce
Ouais.
que moi, ça m'a fait penser à la pochette, tu sais, des Beatles, Sgt. Pepper, avec
Exactement.
voilà. Je sais pas s'il y a un lien entre les deux.
Alors, c'est pas Sgt. Pepper, moi, ce serait plutôt un autre artiste qui s'appelle Speedy Graffito. Pendant mes années fac, on m'avait demandé de faire une sculpture et je trouvais pas ce que je voulais faire. Et je suis tombé sur cet artiste et j'ai flashé sur ce qu'il faisait. Et à l'époque, il faisait des petits démons et des petits anges assez cubiques. Et j'ai vu d'autres toiles qu'il faisait, c'est de l'accumulation de personnages et j'ai adoré l'idée. Et alors, ça a été une de mes premières influences assez fortes que j'ai voulu au début voilà, pour commencer à trouver mon style. Je partais sur une base que je connaissais et puis ça a fait ce genre de choses au début qui ont évolué par la suite.
D'accord. C'est ça, ouais, pour moi, ça fait la synthèse un peu de toutes ces icônes, c'était intéressant. Et en 2016, de ce fait, on voit, il y a vraiment une évolution. Je pense que tu t'engages un peu plus, ton style s'affirme. Je pense en particulier à Just Love ou Tinder Ariel, où là, tu abordes des icônes, mais aussi des phénomènes de société. Si on revient sur Tinder Ariel,
Ouais.
pas besoin de l'expliquer beaucoup, mais là, ça s'affirme. Pourquoi t'as ressenti ce besoin? Est-ce que il y a des choses que tu abordes, un message que tu essaies peut-être de faire passer en fait à travers ce
Exactement,
travail?
voilà. En fait, les premières années, c'était les années fac, donc je m'y cherchais un peu. Une fois que je trouvais plus ou moins mon style, je me suis dit, voilà, il faut rajouter quelque chose, une idée, un message, quoi de mieux que les messages qui m'intéressent moi, donc la liberté sexuelle. La junk food, que je trouve ça juste horrible de voir des gamins à 10 ans déjà obèses parce qu'ils mangent du McDo tous les jours, ce genre de choses. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire passer par le biais d'images visuelles assez fortes et faciles à comprendre, leur faire passer un message clair pour leur montrer qu'il y a une autre solution que ce qu'ils mangent ou comment ils sont, quoi.
Donc après en 2017, il y a un changement dans le trait. Bon, je pense que on évolue toujours de toute façon selon les périodes. Mais je pense en particulier à Marilyn ou Obama, où là ça s'affirme plus. Après, ça fait un peu dans la continuité. Je pense que 2017 et 2018 se rapprochent assez. Alors, je ne sais pas si on va s'arrêter forcément sur 2017. On va parler de 2017 et 2018, où oui, ton trait s'affine.
Ouais, en fait, à cette époque-là, je commence à laisser un peu de côté ce qu'on appelle voilà, les personnages de pop culture au dessin assez facile et je voulais complexifier un peu mon trait, lui donner un peu plus de tenue. Donc j'ai commencé à prendre des photos de personnalités, comme tu dis, Marilyn Monroe, Obama, etc. et à les redessiner, voilà, en fait, à apprendre une nouvelle technique de dessin. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner ce genre de portrait. D'abord en croquis, en essayant de voir les proportions, les yeux, etc. Et une fois que j'arrivais à maîtriser toutes les formes, je le faisais en peinture.
Et est-ce que, au-delà de ce désir on va dire de rendre plus riche ton trait en prenant des icônes, enfin des personnes réelles, est-ce qu'il y a derrière ça peut-être un engagement plus fort, parce que tu t'intéressais avant à des icônes de la pop culture, des personnages fictifs, là c'est des personnages réels qui ont aussi comment dire qui ont une force significative assez puissante enfin, je pense en particulier à leur pouvoir politique, en fait. T'as Obama qui représente quelque chose de peut-être encore plus grand. Il y a beaucoup d'idées sociales et politiques derrière. Est-ce que toi, c'est une nécessité que tu as eue ou c'est juste parce que tu voulais t'intéresser aux personnes en tant que telles et pas forcément à ce qu'elles représentaient
En fait, il y avait des deux. J'ai mis les personnes en tant que telles, avec leur parcours assez riche, assez exceptionnel. et rester dans la continuité de voilà des Tinder Ariel, etc. où là j'avais toujours des messages à vouloir faire passer, et dans leur vie eux-mêmes passaient des messages assez forts et je voulais les reprendre pour les refaire passer à mon tour aux autres via
c'est,
le pied.
C'est toujours des personnages en fait que tu admires, et tu jamais tu vas faire des œuvres avec des personnages plutôt négatifs ou des choses.
Ah oui, non, c'est toujours dans c'est toujours... le côté positif de la chatte. Voilà. Je laisse le côté négatif à d'autres et moi je préfère me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans la vie, dans le monde, et de le mettre le plus en lumière possible.
Ok. Donc c'est oui, c'est une célébration, je pense, des icônes.
Exactement.
Voilà, et dans tout ce qu'elles ont de meilleur. Donc en 2017, tu fais plus de portraits. Et tu multiplies les supports. Je pense par exemple au skateboard et aux panneaux de signalisation.
Ouais, voilà, c'est ça. J'avais envie de... Bah, après l'évolution graphique, je voulais aussi faire une évolution sur le médium. Donc j'ai cherché des médiums un petit peu atypiques. Donc la palette, le panneau de signalisation, le parpaing, le skateboard. On va trouver des trucs qui changent un peu la toile classique, en fait.
D'accord. Parce que du coup, en 2020, pour les travaux les plus récents, tu retournes aux personnages fictifs. Je pense par exemple aux personnages de Disney ou de comics ou de manga. Mais là, tu continues quand même à explorer d'autres médiums avec les parpaings.
Oui.
Donc peut-être qu'on va s'attarder un peu plus sur ces travaux les plus récents. Pourquoi le parpaing voilà, ça c'est la grande question. Pourquoi et pourquoi pas, tu me diras. Mais...
Alors le parpaing, c'est parce que je faisais une exposition et je voulais mettre un mur. Mais la salle faisait qu'il n'y avait pas possibilité de faire un mur avec une toile, enfin peindre directement sur le mur. Donc je dis, si je ne peux pas faire un mur, je vais en poser un. Donc je suis allé acheter une vingtaine de parpaings, je les ai posés, et puis j'ai fait une œuvre directement sur les 20 parpaings en eux-mêmes. Et ensuite, elle était un petit peu grande cette œuvre, et je n'arrivais pas à m'en débarrasser, à l'exposer quelque part, ou à la vendre. Donc du coup, j'ai décidé de la repeindre par-dessus, à l'unité, sur chaque parpaing, je faisais... un personnage différent. Et comme l'aspect du parpaing est assez granuleux, c'est pas très net, je pouvais pas faire des trucs très très détaillés. Donc je me suis dit, je vais m'amuser, je vais faire des icônes de la pop culture comme Mickey, Homer, Scooby-Doo, etc.
Est-ce que tu voudrais peut-être un peu plus développer les thèmes qui ressortent dans tes tableaux, ou tu penses qu'on
a... Ouais, on peut, c'est pas un souci. Pour revenir du coup à la base, donc les thèmes qui m'ont inspiré au départ, voilà, c'était l'écologie, la nourriture, la liberté d'expression et de sexualité. Donc je voulais à chaque fois dire un message clair par toile avec des personnages que tout le monde connaît, les Simpsons et les princesses Disney.
Tu peux t'approprier facilement du coup, t'es familier avec eux.
C'est ça, tu peux facilement te mettre à leur place et t'approprier leur visuel, en gros. Donc on va faire passer un message très clair. Et ensuite, voilà, j'ai voulu après, au fil de mes découvertes aussi d'artistes, m'influencer d'autres artistes comme De Chirico, Picasso, plus dans le street art, c'est 215, Speedy Graffito. Voilà, c'était une influence de tous ces artistes différents et les mélanger les uns avec les autres.
Que t'apporte la peinture au niveau personnel Je sais que c'est compliqué, hein, mais...
En fait non, pas tant que ça, parce que moi la peinture c'est simplement ma vie. Je peux pas ne pas peindre, ça me semble incohérent de passer une
c'est
semaine.
C'est vital, quoi.
C'est comme respirer, je peux pas me passer de peindre.
D'accord. Clair, ça se comprend. J'aimerais savoir comment tu procèdes lorsque tu crées une œuvre, peut-être par étape. Est-ce qu'on voit les différentes couches? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu?
Oui, il y a effectivement plusieurs étapes. D'abord, l'étape, on va dire, mentale, où je décide de l'idée centrale de l'œuvre. Mm-hmm. Voilà, ce genre d'idée arrive souvent dans des rêves, soit en la vie de tous les jours. Je vois un truc qui va m'inspirer, qui va avoir un flash, et je vais avoir l'idée. Et voilà, une fois que j'ai cette idée, je la pose sur le papier, je l'écris, alors ça va être avec ça, avec ceci. Une fois cette étape faite, on passe à l'étape croquis. Donc là, je prends ma tablette et je fais le croquis sur ma tablette. Oui, c'est ça, avec l'application Procreate.
Ah oui.
Elle est une facilité déconcertante. Ça coûte quasiment rien. Là, on a une tablette graphique pour 10 balles, quoi. Donc c'est vraiment exceptionnel.
Pourquoi tu n'utilises pas les Adobe sur tablette? C'est mieux Procreate
Procreate, en fait, c'est comme si je dessinais sur un bout de papier, quoi. C'est, C'est juste que l'avantage du numérique, c'est qu'on peut effacer, recommencer à l'infini, quoi. Donc c'est cet avantage par rapport au dessin.
Et ces croquis-là, enfin, ces dessins, parce que tu coloris aussi, tu mets en couleur sur.
Non, non. Le croquis il reste noir. Enfin, il n'est pas noir et blanc, il est rose et blanc.
Rose et blanc.
Oui, je fais mes croquis en rose.
Et tu les as, t'as jamais exposé ou montré ces croquis
Ah non, c'est vrai, j'ai jamais pensé. Ouais. C'est pas une mauvaise idée.
Ça peut être intéressant de voir ton processus.
Exactement, ouais. Voilà, donc ouais, les croquis se font sur cette tablette.
D'accord.
Et puis, bah, une fois que c'est fait, en faisant le croquis, je vois les couleurs arriver. Hein. Je sais quelle couleur va aller où, mais je le fais pas sur la tablette parce que ça va pas être du tout le rendu que je vais avoir sur ma toile. Et une fois que c'est fait, bah, je le reproduis sur la toile. Et puis, après, on passe à la peinture. Et là encore, il y a plusieurs étapes.
T'arrêtes deux secondes. Pourquoi le rose pour tes croquis?
Alors, le rose, c'est simplement ma couleur préférée.
D'accord.
Sur chacune de mes toiles, il y aura forcément un bout de rose quelque part. Même si c'est caché, qu'on va pas le voir tout de suite, il y a toujours du rose. Et le rose fluo, d'ailleurs.
Bah, ça me donne une des réponses du portrait chinois pour tout à l'heure, donc voilà. On va la réaborder. D'accord, donc tu disais...
Oui, donc du coup, après, une fois qu'on a le croquis, que le dessin est fait sur la toile... Mm-hmm. On passe à la couleur. Donc là, la couleur, c'est pareil, il y a plusieurs étapes. Il y a le fond, assez, comme je disais au début, assez abstrait, accumulation de peinture, d'éclaboussures, un peu à la Pollock, on va dire, et avec des superpositions de pochoirs différents que j'ai conçus les uns après les autres. Et pareil, toujours, il y a un pochoir qui revient à chaque fois sur chacune des toiles, c'est la fleur de lys. La fleur de lys, tu peux chercher dans toutes mes toiles, tu auras toujours une fleur de lys.
Et pourquoi ça?
Alors, la fleur, elle a deux raisons.
Ton côté patriote.
Ouais, il y a ça. Enfin, patriote, plutôt amino, en fait.
D'accord.
La fleur de lys, c'est un petit peu l'emblème de la ville.
D'accord.
C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est à cause d'un autre artiste aminois qui s'appelle Léon Lamotte.
D'accord.
Léon Lamotte habitait le quartier Montchière et tout. Enfin, ça dépend comment on voit les quartiers. Et ma grand-mère était sa femme de ménage. Donc j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de le rencontrer. Il faut savoir que c'est lui qui a sculpté à la main les milliers de fleurs de lys qu'il y a dans l'hôtel principal au milieu de la cathédrale.
D'accord.
Voilà.
C'est... Non, tu m'apprends quelque chose.
Voilà, puis en plus, c'est un artiste assez connu, assez connu oui et non. Mm-hmm. Tout le monde a déjà vu une de ses sculptures. D'accord. Il y en a des dizaines dans le mien un peu partout.
D'accord. Par rapport à tes sujets, comment tu les choisis? Parce qu'on a un peu... On a un peu parlé, si peut-être des choses à ajouter sur ça.
Non, ouais, si j'ai. En fait, là, sur la fin, les sujets ont un peu évolué.
Ouais.
J'ai été beaucoup influencé dans les derniers mois par Magritte.
D'accord.
Donc là, c'est le surréalisme belge et un peu français aussi qui m'intéresse. J'ai cité tout à l'heure de Chirico, qui est aussi un autre artiste assez surréaliste. Donc en ce moment, c'est plus le mélange entre le surréalisme.
D'accord.
De ce genre d'artiste avec un petit peu des touches de pop pour reprendre les personnages de la pop culture du début.
Je vois bien, t'as repris un tableau de Magritte.
J'en ai repris plusieurs, j'ai parlé par exemple La naissance de l'homme,
mm-hmm.
Voilà, où j'ai repris classiquement avec la pomme, etc. Où j'ai rajouté ce petit oiseau noir qu'on voit souvent dans les mangas.
Mm-hmm.
Donc voilà, et j'en ai fait d'autres comme ça. J'en ai d'autres en préparation avec. Avec une dont j'ai oublié le nom du titre de l'œuvre, où c'est un train qui sort d'une cheminée. Donc je vais le rajouter avec l'épisode du train qui avait été sorti de la gare de Montparnasse ou du nord à Paris au siècle dernier, tout au début où il avait traversé la verrière, etc.
Mais du coup, là ça nous amène sur la question suivante. Est-ce que tu fais une différence dans ton travail lorsqu'il est... d'une part en extérieur et de l'autre en intérieur exposé dans une galerie. Est-ce que tes sujets sont différents? Est-ce que ta manière de procéder est différente? Est-ce que pour toi le message aussi est différent? Enfin voilà, quelle différence fais-tu entre les deux, s'il y en a?
Bon, il y en a une en termes déjà de médium, c'est le papier craft qui est assez fragile, donc je peux pas autant m'exprimer, on va dire... avec vigueurance sur le papier pour pas l'arracher.
Mm-hmm.
Mais sinon, après, les thèmes choisis, je pourrais très bien faire ce que je fais dehors sur une toile sans problème. Il n'y a pas vraiment de différence entre l'un et l'autre. D'ailleurs, il y a souvent des toiles qui sont collées dehors, mm-hmm. qui sont pas reproduites, mais réinterprétées sur toile derrière ou juste avant. On peut avoir les deux sur toile et sur papier craft collé dans la rue.
Parce qu'il y a ce grand débat éternel et peut-être inutile, en fin de compte est-ce que le street art a sa place dans les galeries? Est-ce qu'il doit rester forcément en extérieur? Moi, ça, cette question ne m'intéresse pas forcément. parce qu'on a vu que c'était une question inutile. Mais est-ce que, du coup, et c'est là où on va parler peut-être de choses plus, concrètes par rapport à ce que nous, on développe en tant que graphiste, est-ce que la fonction de ton art est différente lorsqu'elle est en extérieur? Parce que c'est pour moi, je pense, après tu vas me dire ce que tu en penses, une œuvre affichée en extérieur est plus peut-être abordable par des personnes qui ne seraient pas habituées à venir dans les musées, peut-être quelque chose de plus démocratique. Après, l'affichage, toi, il n'est pas vraiment sauvage, mais dans les racines du street art, c'est quelque chose d'assez subversif. Alors toi, tu ne peins pas directement sur les murs, tu fais du collage. Donc c'est différent. Est-ce que tu penses quand même qu'il y a une certaine différence ou t'en fais aucune vraiment entre lorsque tu exposes en extérieur et en galerie?
En fait, le pourquoi de comment j'ai voulu exposer dehors, c'est il y a différentes raisons. La première, c'était évidemment, faut pas se mentir, c'est me faire connaître. Et après, bon, évidemment, je voulais pas non plus dégrader les murs, etc. Donc je me suis dit, quel meilleur moyen que d'offrir de l'art à tout le monde que de le faire sur papier, le coller, et puis bon, si ça plaît pas, bah tu arraches, et puis bon, on y voit plus rien. Mais voilà, l'une des idées, l'une des objectifs de coller dans la rue, c'est aussi de démocratiser au maximum l'art. Les gens qui vont voir ce que je fais dans la rue, ils sont peut-être jamais venus à une de mes expos. Donc beaucoup vont connaître l'art par le biais de mon collage, mais aussi d'autres artistes. Le street art est aussi un art très très démocratique qui ramène le monde de l'art à tout le monde, qu'on soit impliqué ou pas. On a pas le choix, on le voit, donc après on aime ou on n'aime pas, mais au moins ça permet à tout le monde de pouvoir voir une œuvre d'art dans sa vie.
C'est absolument ça. Après, je pense que c'est ça aussi qui a marqué fortement ton travail et aussi ta renommée, c'est que au-delà des initiatives qu'il y avait eu, tu sais, avec les parcs-mètres qui étaient personnalisables, enfin, je sais plus trop c'était quoi le système, c'était certains...
Ils avaient dû faire une commande d'après de 3-4 artistes,
ouais,
et puis
ça, ouais.
C'était une sorte de stickers qui avait été collé sur les ordinateurs, quoi.
Ouais, c'est ça. Et je crois que c'était les comités de quartier ou peut-être les gens à proximité qui...
devaient choisir, je pense, ouais.
Voilà. Y a aucune initiative d'art vraiment aussi franche que la tienne sur Amiens, aussi régulière et aussi longue. Donc on peut dire que la ville est un terrain libre pour toi.
Alors, je serais pas aussi direct que toi, il y a d'autres artistes.
Il y a des choses, oui.
Ouais. Mais... Après, c'est vrai que moi, je fais des formats assez grands, c'est minimum 1 mètre par 1 mètre 50. Donc,
ça passe pas inaperçu, surtout.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà. Ça passe pas inaperçu. Il y a d'autres artistes qui étaient là bien avant moi,
ouais,
qui sont là encore maintenant et qui font des choses. Mais bon, après, c'est le format qui fait que j'ai été plus mis en avant et que j'ai osé le mettre en plein centre-ville, en plein jour, sans me soucier de qui que ce soit. D'ailleurs, j'ai bien fait, parce que même la police a voulu une de mes œuvres.
oui, je vois très bien. Oui, la boucle est bouclée, là, du coup.
C'est ça.
Je voulais savoir pourquoi tu travailles spécifiquement les portraits, surtout ceux d'icônes. Alors, t'as déjà répondu, je pense, en partie à tout ça, parce qu'elles représentent peut-être un idéal, elles ont aussi te permettent de parler de tous les sujets que t'as abordés. Mais c'est voilà, tes œuvres, c'est surtout des portraits. Est-ce que tu te verrais pas peut-être explorer autre chose par rapport aux icônes, par rapport aux personnages? J'essaie d'élargir un peu la question parce que tu as déjà répondu à cette question. Ouais. Après, peut-être qu'on peut passer à la suite. Elle est pas forcément.
Ouais, voilà, utile, c'est ça. Ouais. C'est surtout les peindre les portraits, les montrer le visuel clairement. Voilà, c'est. Pour Obama tout à l'heure, tu disais, c'est un portrait d'Obama, bon, faut qu'on reconnaisse tout de suite Obama et puis qu'en plus, ça puisse se rappeler. Voilà, Obama, c'est le premier président noir américain, c'est lui qui a fait beaucoup de choses pour l'Amérique. Là, ça se voit d'ailleurs, ça doit leur manquer d'avoir Obama par rapport à Trump. Voilà. Donc voilà, c'est passer des messages très clairs avec une chose que tout le monde peut voir, un portrait, c'est le plus classique en termes de peinture.
Parce que je sais pas si t'as des. Ne serait-ce qu'une peinture où il n'y a pas un personnage ou une icône, est-ce que ça t'est arrivé de peindre une peinture sans sujet?
Non, il y a toujours un sujet,
voilà, c'est,
c'est toujours du figuratif.
D'accord, ok. On va ouvrir un peu pour essayer de faire le lien au graphisme. Est-ce que pour toi, je pense que c'est le cas, est-ce que tu portes une certaine importance au logo et aux mascottes? Aux mascottes, oui, je pense sûrement, mais au logo, parce qu'on en retrouve dans ton travail. Y a le logo de Tinder, il y a Brillo, ça c'est pour la référence à Warhol. Y a aussi une, si je ne me trompe pas, où on voit Puma, mais je crois que c'était un mur en extérieur.
Alors, Puma, c'est un peu particulier, parce que c'est une commande de Puma et de l'ASC.
D'accord. Donc,
il fallait forcément que je mette Puma et AC dedans.
Forcément. Mais tu as aussi peint Monsieur Propre, qui est en première page de ton site internet. Est-ce que pour toi, tu portes un regard particulier sur les marques que tu intègres par... de façon épisodique par leur logo et par leurs icônes, parce que Monsieur Propre, c'est avant tout une marque.
Ouais.
C'est un personnage, c'est une mascotte. Est-ce que tu as un regard particulier sur tout ça? Est-ce que tu fais un lien parce qu'on parle d'icône. Une icône, ça peut être une icône, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une mascotte, une marque, quelque chose qui représente toute une idée, tout un univers. Est-ce que toi, tu places une importance particulière aux marques dans ton travail?
Alors oui, ça va dépendre de la phase de création. Mmh. En ce moment, il y en a un peu moins, vu que je suis surtout dans l'art figuratif, mêlé au surréalisme. Mais ouais, le graphisme des marques m'intéresse beaucoup.
Mmh.
D'ailleurs, même ma signature, il m'a fallu une bonne année avant d'arriver à trouver comment la faire.
D'accord.
C'est trouver un truc assez graphique pour le coup.
D'accord.
Donc oui, là, le graphisme, pour moi, c'est une forme d'art comme une autre. Et j'adore regarder les logos, même si la marque ne m'intéresse pas particulièrement. Mmh. Comment il a réussi à faire ceci, cela, le graphiste, on s'entend. Et pour faire passer le message que la marque voulait faire passer, voilà, c'est toute une recherche très intéressante.
Parce que c'est aussi ce qui m'a poussé aussi à avoir cet entretien avec toi, parce que ça a des fonctions différentes. Toi, tu fais des productions artistiques qui se suffisent à elles-mêmes, même si tu parles de sujets, ton travail est quand même d'une certaine manière assez engagé, mais elles fonctionnent sur certains modes que l'on retrouve dans le graphisme. Lorsque tu parles d'icônes, que tu mets en avant des mascottes, etc., elles ont ce pouvoir évocateur, comme tu disais, on peut se les approprier parce qu'on les connaît, c'est des choses qu'on voit dans notre quotidien, qu'on a vu souvent, que ce soit à la télé, dans les bandes dessinées, au cinéma, les super-héros, depuis des années et des années. Et c'est la même chose pour les logos qui nous entourent, les marques aussi, c'est des choses qu'on a, avec lesquelles on a grandi. Donc je trouvais qu'il y avait dans cette fonction un rapport à faire entre les deux. Voilà.
Ouais, bah tout à fait, il y a un rapport très clair, c'est simplement le message. Hein. Voilà, moi je vais vouloir faire passer des émotions ou des idées en particulier. Et le graphiste, par la commande de l'entreprise, va faire passer, va dire « venez chez moi, achetez ceci, achetez cela ». Quoi. Donc il y a toujours un message derrière, c'est pas de l'image pour de l'image. Quoi.
Et en fait, c'est quelque chose qu'on voit arriver depuis très longtemps. C'est, comme je te disais, il y a une limite en fait, qui devient de plus en plus floue entre l'art et le graphisme, précisément dans cette fonction, parce que tu disais l'art est là pour faire ressentir des choses. Mais aussi passer un message de plus en plus, alors que le graphisme, lui, était là avant tout pour passer un message, mais de plus en plus va essayer de faire ressentir des émotions, effectivement dans un but différent, hein. Pour une marque, c'est pour se faire connaître, etc. Et donc voilà, je pense qu'il y avait un rapport assez particulier à faire entre les deux.
Ouais, il y a un rapport, de toute façon, il y a beaucoup d'artistes qui ont été graphistes avant, et puis de toute façon, depuis Warhol, graphisme publicitaire et artistique, ça fait plus qu'un, quoi. Il a mis les deux, il a fait du graphisme publicitaire un art, quoi.
Je pense que ça se distinguera toujours dans la finalité.
Mais on
fonctionne sur des mêmes modes, en fait. C'est surtout ça que je trouve intéressant. Et c'est pour ça que dans La Potion, dans notre podcast, on interroge d'un côté les marques, mais aussi les artistes, pour que chacun apprenne peut-être à mieux se connaître. Et à se rendre compte en fait qu'on fonctionne sur les mêmes modes en fait. Voilà, donc là maintenant on va peut-être on va aborder le secteur de l'art en général, donc peut-être sur le même mode que les marques. Parlons du marché de l'art. Quelle importance ou quelle relation portes-tu à ta communication et à ton image.
Bah alors aujourd'hui, c'est fondamental. Mmh. On ne peut pas être un artiste du 21e siècle et ne pas être connecté déjà aux réseaux sociaux et au monde numérique. Quoi. C'est très important d'avoir un côté publicitaire, on va dire, même si ce n'est pas trop le monde de l'art normalement, mais voilà, il faut arriver à se faire connaître et c'est le meilleur moyen que de faire passer par les réseaux sociaux.
Ouais, parce que je pense qu'on a toujours ce mythe de l'artiste dans son atelier, dans sa grotte, qui se suffit à lui-même en fait. Et je pense que c'est au-delà du fait de vouloir se faire connaître, c'est peut-être aussi d'être plus connecté et proche en fait de ton public.
Mais voilà, on ne peut pas peindre chez soi et puis penser que tout le monde va arriver à trouver ce que l'on fait. Il faut le diffuser. Et puis la diffusion fait que tu vas avoir des connexions avec d'autres personnes. Mmh. Ces connexions vont nous amener peut-être des façons d'appréhender notre travail différemment. Et donc, c'est faire évoluer le dessin, la peinture, le sujet. Donc oui, c'est très important la relation au public, à l'extérieur en gros.
Ce que j'allais te demander, est-ce que du coup la production d'un artiste se suffit à elle-même? Clairement non, je pense.
Non, oui, non. Ce serait le monde idéal, hein. Ouais. On n'a plus qu'à peindre, et puis on ferait que ça, mais malheureusement il faut pouvoir en vivre, donc mm-hmm. Pour en vivre il faut les vendre les toiles, et donc on est obligé de passer par ce biais de communication.
D'accord, très bien. Et du coup toi en tant qu'artiste, parce que c'est... Je vais te poser des questions, c'est intéressant, je vais te poser des questions qu'on pose en général aux marques, aux entreprises, ça a été déjà un peu le cas pour les deux premières, et voir comment on peut appliquer ça dans le monde, dans le secteur de l'art contemporain. Quels sont, d'après toi, tes points de différenciation? Qu'est-ce qui fait que, en tant qu'artiste, tu es différent des autres?
Des autres artistes, tu veux dire?
Oui, voilà. C'est des choses qu'on demande en fait aux marques de se distinguer par une proposition unique de vente ou peut-être une façon de faire, etc. Toi, si tu étais une marque par exemple, comment tu te distinguerais du reste des marques?
Ah, c'est assez compliqué parce que je pense qu'en tant qu'artiste, on se considère pas comme une marque à part entière. Mm-hmm. On fait ce qu'on aime, on le peint et puis on essaye de le communiquer au
maximum.
Pourtant,
un Romain Doré, on le reconnaît directement.
Oui, tout chaque artiste a sa propre patte, son propre style. Ouais. Donc ça se reconnaît. Forcément, moi, ça va être le fond un peu abstrait avec les pochoirs, plus par-dessus un sujet figuratif. Mais au-delà de ça, la manière de se promouvoir, on va dire... Hein, je pense pas qu'il y ait de différence entre moi et notre artiste. On essaye tous de trouver la façon la plus performante par rapport à là où on est, les moyens de communication que l'on a et de faire au mieux, quoi.
Et d'après toi, c'est quoi ton meilleur moyen de communication? En l'occurrence, de pouvoir être connecté au mieux à ton public, de mieux échanger avec lui. C'est quoi ton canal favori?
Alors, le canal favori, moi, ça va être la rue. Clairement, c'est là où j'ai été le plus vu, forcément.
Même alors là, du coup, on n'est pas du tout on n'est pas en 2020. Là, on revient aux bases, la rue, c'est... Il n'y a rien de...
Ouais, ça a toujours été. On aura beau dire, c'est bien, ouais. Mais rien de mieux que du concret, que dans la rue, on va presque dire du tactile, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, donc, ouais, c'est ça, ce serait en premier lieu les collages dans la rue. Et après, allié à ça, parce que c'est quand même très important aujourd'hui, les réseaux sociaux.
D'accord. Alors, je vais te poser deux questions subversives. Qu'aimerais-tu détruire dans le marché de l'art?
Peut-être les critiques, et encore, ils sont aussi utiles quand même. Mais ouais. C'est vrai que, après, ça dépend comment... ça dépend les critiques, en fait. Les critiques qui sont là juste pour dire on va garder un petit cercle d'artistes et on va aller faire se reproduire entre eux financièrement, pour faire une boucle assez mauvaise, on va dire, qui fait que c'est qu'un très petit nombre d'artistes qui sont mis en avant. Et par contre, on a d'autres critiques qui sont là, qui vont chercher, qui vont prendre des risques, qui vont aller voir les artistes émergents pour dire, est-ce que lui, il va peut-être pouvoir, d'ici un ou deux ans, son style va évoluer, parce qu'il va être un de ces artistes qui auront besoin d'être très connus. Voilà, donc non, en fait, il n'y a pas vraiment d'univers de postes dans la culture qui serait à retirer, mais plus des mentalités. Voilà, essaye de prendre le risque de faire découvrir d'autres personnes plutôt que de rester sur l'entre-soi et de continuer à faire. En fait, voilà, ce serait plutôt le monde du fric qu'il faudrait virer.
Je vois ça. Mais c'est en plus, en tant que street artiste, même si tu t'inscris beaucoup en galerie, c'est aussi un désir de se défaire de ce peut-être de ce système qui est parfois, comme tu le dis, à juste titre, un peu trop refermé sur moi, sur soi-même en
Voilà.
l'occurrence.
Il est utile, mais il faut savoir choisir les galeries pour montrer que là, c'est des galeries qui défendent leur artiste et pas
D'accord.
leur bille, en fait.
Et tu penses pas que des fois, donc, enfin, certains en jouent, du coup, est-ce que toi, ça t'est arrivé d'en jouer de la mauvaise critique? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un bad buzz vaut mieux que pas de buzz et qu'on parle pas de toi. Des fois, mieux vaut qu'on parle de toi en mal que pas du tout de toi. Est-ce que toi, ça t'est arrivé déjà un moment dans ta carrière qu'on parle en mal de toi et que t'en profites pour te mettre en avant et du coup retourner inverser la vapeur, en fait?
Alors, on a profité, non, mais c'est vrai que les bad buzz, on a eu, hein, surtout là, dernièrement, avec l'affiche à la police. Clairement, toute la population
C'était risqué,
n'est pas pro-police,
voilà.
et surtout en termes d'artistes. Mais non, moi, j'assume totalement, il y a d'autres artistes qui l'ont fait. Et puis, ouais, ça fait un bad buzz, c'est pas grave, hein, ça fait quand même du buzz, hein, que ce soit mauvais ou bon, ça revient même. Mais moi, j'ai resté dans mes convictions, je voulais soutenir la place de la femme dans la police, donc j'ai fait une œuvre pour la police sur la femme dans la police.
Ben, ça n'a pas laissé indifférent, c'est ce qu'on veut de toute façon, c'est ce que
Exactement,
cherche
c'est ça.
l'artiste, hein. De
La
toute façon, c'est
réaction
à
avant tout.
provoquer et affirmer. Voilà, c'est de toute façon, l'artiste c'est toujours celui qui a contre-courant, donc on pourra dire que
Et puis
par la suite,
il y aura toujours on va dire des haters
oui,
pour
bah
dire
absolument.
ah c'est nul, t'es invendu ou c'est moche ou ce genre de conneries. Ben, qu'ils n'ont qu'à le dire. Ça
Très bien, on parle de
m'intéresse
toi
pas.
pendant ce temps-là,
Voilà, exactement.
c'est ça. Et à contrario, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais garder à tout prix dans le monde de l'art?
Bah, la curiosité des nouveaux artistes, voilà, de voilà, faire appréhender encore plus de nouveaux artistes, voilà, l'émergence de nouveaux artistes, l'évolution artistique mêlée avec l'actualité du jour ou de la semaine. Voilà, garder vraiment ce côté ancré dans notre époque.
D'accord. J'aimerais aborder tes commanditaires parce que t'es très prolifique. Je voulais savoir comment tu t'entretiens tes relations avec tes commanditaires, comment ils viennent vers toi, comment s'ils t'imposent des sujets, si. Je voulais savoir comment tu fonctionnais en fait dans la
Alors,
commande.
voilà, en fait, il y a deux pans différents. Soit c'est les collectionneurs connais depuis 4-5 ans où ils vont même pas me commander une toile, ils vont me dire qu'est-ce que tu as en stock et je leur propose ce que j'ai, ou alors j'aimerais une toile sur cet univers, est-ce que tu en as ou est-ce que tu veux en faire une? Soit voilà, ils me laissent carte blanche complètement. Après, on a d'autres commanditaires qui sont souvent des commanditaires qui ne vont acheter une seule toile ou deux maximum, qu'on ne verra peut-être plus jamais, mais voilà, c'est des collectionneurs, ils veulent une œuvre vraiment unique qui leur ressemble. Et donc là, bah, ça va dépendre. Soit ils ont une attente qui est bien trop élevée ou qui ne correspond pas du tout, et bien je vais les adresser sur d'autres artistes. Ou alors je vais dire, bah non, c'est pas la peine, je vois pas ce que vous voulez, et désolé, je peux pas vous aiguiller vers notre artiste. Ou les autres commandes, où là, ça va être des sujets qui me parlent. Et là, ça va être la création d'un croquis à deux ou trois mains, en fonction du nombre de clients. Par exemple, on a une juste derrière moi, là, celle qui est en attente de venir la chercher. Les deux commanditaires, c'est un couple d'amis qui m'a demandé, ils voulaient Amir en fond et Snoopy et son petit oiseau. Et ben, on est parti sur un croquis, j'ai fait un premier croquis. Ils disaient, ouais, on aimerait bien ça, 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 ça. J'ai fait un deuxième croquis. Et il a évolué comme ça sur 4-5 étapes pour avoir ce qui nous plaisait à tous les trois, quoi.
Ah, du coup, c'est vraiment un processus de collaboration, en fait,
Ah,
là. Du
ouais,
coup,
pour ces commandes-là,
c'est intéressant.
c'est vraiment une création à plusieurs, quoi. Je suis pas le seul à créer la toile.
D'accord. C'est encore plus une appropriation, je vois. Mais du coup, comme pour... Ça, on va faire un pas encore avec les marques. Les marques, soit s'intéressent à ce qu'on appelle au B2B, c'est business to business, donc ils s'adressent aux professionnels, aux entreprises, soit ça va être des entreprises qui vont s'intéresser au B2C, donc c'est business to customer, donc c'est des marques qui vont s'adresser à un public. Toi, tu as les deux aussi, tu as des entreprises, tu as des institutions qui te font des commandes, mais tu as aussi des particuliers qui te font des commandes. Est-ce que tu fais une différence, je dirais pas dans ce que tu produis, mais est-ce que la relation est différente entre les particuliers et les entreprises?
Je pense oui, parce que les particuliers sont souvent là dans l'attente d'émotions à travers la peinture. Et les financements publics ou privés des entreprises cherchent un peu l'émotion forcément, mais ils ont aussi une attente de messages qui font passer derrière. Voilà, par exemple, pour la police, ils voulaient vraiment que ce soit une policière, enfin l'univers de la police, qui ait un rapport avec le commissariat. Donc moi, je leur ai soumis mes idées et on a discuté tous ensemble de comment allait se faire la chose.
D'accord. Et j'ai une question qui me vient là, qui sort un peu de mon script. Est-ce que tu t'amuses à cacher des éléments dans tes œuvres lorsqu'on te fait une commande, peut-être pour suggérer un autre sens de lecture ou des petites choses cachées, tu sais? Est-ce que ça t'est déjà arrivé?
Alors, il y a souvent dans les toiles, pas forcément des commandes d'ailleurs. Hein.
Parce que celle de la police, par exemple, peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose de caché, de subversif, je vous ai... je sais
Alors,
pas.
non, il n'y a pas de thème caché dans celle de la
Non, celle-ci,
police.
ouais.
Voilà, mais dans la dot, par exemple, une que j'avais faite pour un hôtel, l'hôtel qui est derrière la Tour Perret d'ailleurs, il m'avait commandé 6 toiles sur Jules Verne. Dans une des toiles, il y a une suite de chiffres.
D'accord.
Et cette suite de chiffres amène à une cartographie, à un lieu sur la planète.
D'accord. Et ça, tu en avais déjà parlé?
Et ben en fait, seulement les. Non, personne ne le sait à part les gérants de l'hôtel. En fait, c'est un jeu de pistes sur la
D'accord.
toile.
Bon, on a une exclue pour le podcast, c'est cool.
Voilà.
On va aller, du coup, on va tous aller à l'hôtel voir ces suites de chiffres. D'accord. Donc, c'est des coordonnées GPS, c'est ça?
C'est ça, c'est du coordonnées GPS.
Ok.
Après, tu as d'autres toiles où c'est. Ça va être des trucs un peu plus discrets. Tout à l'heure, je te disais la fleur de lys. Ça fait que 1 an ou 2 que je dis que je mets des fleurs de lys, alors qu'elles y sont depuis quasiment un bon moment, quoi.
Donc de toute façon, c'est toujours des choses visibles, mais après, tu pourrais peut-être intégrer des symboles cachés que, étant donné que tu as beaucoup de couches superposées, tu pourrais peut-être cacher des choses derrière, tu sais, comme un peu des repentirs, quoi. Est-ce
Ouais, ce qui
que,
serait visible qu'elle avec
par
une certaine
exemple,
lumière, ouais.
voilà.
Alors, il n'y a pas ça. Par contre, il y a des messages qui sont sur des toiles qui sont visibles, hein, mais
D'accord.
pas possible de lire si je donne pas la clé.
D'accord. Ok.
Donc,
On
il y a
va
des
faire
toiles,
un.
voilà, si c'est peut-être que dans 5 ou 10 ans, je dirais, bon, cette toile, c'était ça, ça, ça,
Ça, c'est
et
intriguant, ça.
les gens ne pourront jamais savoir si je ne donne pas les clés, quoi.
Ouais, tu vois, on en discute après. Ok. Voudrais faire un dernier lien avec les marques. Le luxe est issu de l'art et l'art est un luxe, affirmait Michael Kremer. Entre graphisme et art, la fonction fait la distinction. On en discutait juste avant. Et je disais que la limite était parfois trouble. Penses-tu, personnellement, que les marques, dans leurs identités, dans leurs campagnes, leurs produits sont-elles assez créatives? Il y a des grandes marques qui se distinguent, qui arrivent à faire des partenariats avec des artistes, ou même qui créent des univers quand même singuliers, riches. Est-ce que tu penses que dans la majorité des cas, on manque cruellement de créativité ou pas?
J'irais pas jusqu'à dire cruellement, mais c'est vrai qu'il y a des campagnes de pub, on voit qu'il leur manque le côté artistique d'un graphiste ou quasiment d'un artiste pour leur donner le petit plus, on va dire, qui fait que la publicité va rester dans le temps. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, les publicités qu'on connaît qui ont 20, 30 ans, il y a toujours un côté artistique, plus ou moins dans les musiques, dans le visuel. Il y a toujours un truc qui garde. C'est justement ces publicités qu'on demandait l'originalité d'artistes qui font qu'on les retient.
Est-ce que toi, tu as des marques qui, dans leurs identités, dans ce qu'elles produisent, même enfin dans leurs produits en l'occurrence, est-ce qu'il y a des marques que tu affectionnes ou qui te marquent, du coup, des marques qui te marquent ou par leur créativité, est-ce que tu as des choses qui te viennent en tête?
Là, comme ça, tout de suite, non. Puis en plus, je suis pas vraiment du monde du matériel. Je serais plutôt dans le minimalisme. Très écologique, à faire très attention à ce que je consomme. Donc non, moi je j'ai pas de marque qui m'interpelle en particulier, mais voilà, s'il y a des marques qui m'interpelleraient, c'est des marques qui seraient soucieuses de l'environnement, qui seraient sur de l'artisanat, de la chose bien faite, avec des compétences voilà, qui sont enrichies, qui sont valorisées par la marque, voilà.
D'accord. Ah, parce que c'est peut-être ton paradoxe, parce que t'es quelqu'un féru de pop culture, tu t'intéresses beaucoup aux productions, voilà, hein. On en a
Exactement,
déjà
voilà.
parlé, mais de l'autre côté.
Je suis très pop culture et pourtant je n'ai pas la télé.
Voilà.
Rien que ça, voilà, ça fait 5-6 ans que j'ai pas la
On
télé.
partage la même chose dans ce cas-là. On a fait tous ce bon choix. Mais de toute façon, la télé, les jeunes ne la regardent, plus.
Non, voilà, on est tous sur, sur Netflix ou sur, Internet directement.
Tu choisis ce que
voilà.
tu regardes plutôt qu'on t'impose.
Exactement.
D'accord. Très bien. Je pense que c'est le moment de passer au portrait chinois.
Ouais, c'est parti.
Qu'on mette un peu d'image sur ces mots. Donc, ma première question, si tu étais un animal, ce serait...
Un animal, je sais pas, je dirais un oiseau, un truc qui peut se déplacer à travers la planète complète. Hein, je dirais pas un en particulier, mais voilà, un de ces oiseaux migrateurs qui peuvent voyager au gré des vents, au gré des montagnes, sans avoir à s'embêter des frontières fictives que l'homme a voulu mettre sur la planète.
Ça m'étonne pas venant d'un artiste, un oiseau, la liberté.
C'est ça.
Et voilà. Si tu étais un pays, ce serait et interdit de dire la France parce que notre dernier invité Clément Daché a dit la France.
Ah ouais.
Donc...
De toute façon, j'allais pas dire la France. Même si j'adore mon pays, où c'est vraiment, je dirais le Québec.
Le Québec, pourquoi le Québec?
Bah c'est le cousin de, le cousin français, hein, on va dire.
D'accord.
Non mais j'adore leur philosophie, leur façon de parler, leur accent. Je tomberais amoureux d'une Québécoise sans problème juste en écoutant. Mais voilà, leur façon d'être, c'est le mélange de l'Europe et de ce qu'il y a de bien aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas que du mal aux États-Unis.
C'est peut-être, oui, cet entre-deux entre les valeurs européennes, peut-être un peu plus la liberté qu'on a sur le continent américain.
Voilà, c'est ça, c'est le mélange des valeurs, en fait, le meilleur des deux univers, quoi.
Non, je comprends très bien. Si tu étais un plat, que ce soit un dessert, un plat de résistance, ce que tu veux, même une viennoiserie, tu serais...
Alors, si je serais une viennoiserie, je serais un millefeuille de chez Boquillon.
Okay.
C'est juste le meilleur millefeuille au monde.
Ah bah oui, tu prends pas de riz chez Boquillon.
Pourtant, j'ai cherché à voir s'il n'est pas meilleur. J'ai jamais trouvé.
Leur financier aussi, pistache, je crois, c'est ça. Il est juste, c'est la folie. Oui, d'accord, le millefeuille, absolument. Et pourquoi le millefeuille, à part que t'aimes ça?
Ah, le goût subtil du rhum avec le feuilletage et la crème, c'est juste voilà, le mariage parfait.
Je ne crois que je ne l'ai pas testé, je vais
aller corriger ça
dès cet après-midi, d'accord. Si tu étais une célébrité, à part toi-même, ce serait...
Ouais, bon, je suis même pas une célébrité, moi, d'ailleurs. Une célébrité, ouais, c'est compliqué, ça...
Peut-être une des icônes que tu aurais peint, par exemple, une que tu affectionnes particulièrement.
Ouais, bah je dirais Mandela.
Mandela.
Voilà. Ouais, pour son combat contre l'apartheid.
D'accord.
Donc c'est une personne qui a quand même vécu des décennies en prison juste à cause de ses idées, quoi. Il a rien lâché.
Persévérance.
Voilà, c'est ça.
C'est le mot d'ordre, je pense. Hein, persévérance. Là, c'est peut-être un peu plus facile. Si tu étais un comics, tu saurais lequel?
Un comics. Ça, je serais pas un seul comics, je serais
il faut choisir
sinon un mélange de Deadpool et de Superman.
Pourquoi?
Alors Deadpool c'est l'humour, ça, c'est il s'emmerde pas, et s'il veut faire un truc il le fait, et Superman pour le côté un petit peu voilà, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui s'est adapté à pas adapté mais qui a embrassé la culture de notre pays pour le coup.
Très pertinent. Si tu étais un film, ce serait
un film, je serais une trilogie, Le Retour vers le futur.
Et pourquoi?
Ah, c'est juste mes films préférés, je peux les regarder en boucle. D'ailleurs, je les mets souvent la trilogie pendant que je peins et je regarde même pas parce que j'ai le film en tête,
oh,
j'ai juste
super,
à voir
ça.
Les images.
C'est génial. D'accord. Si tu étais un livre, ce serait...
Un livre, je suis beaucoup moins livre, je serais plutôt du coup comics, hein, pour le coup.
D'accord, bon, ça peut être un comics aussi.
Voilà,
un papier.
Ce serait une des premières bandes dessinées, enfin un des premiers comics de Superman.
D'accord. Et une région particulière?
Bah, ou... j'aime bien le style du début, un petit peu kitsch et voilà, c'est sympa. Si t'es enfantin, c'est l'époque où il n'y avait pas encore trop le côté sombre des super-héros actuels.
D'accord. Ok. Là, on en a parlé et en plus, très pertinent parce que j'en vois, je le vois sur tes doigts, tu en es... rempli,
ouais.
Recouvert. Si tu étais une couleur, ce serait évidemment...
Ouais. Voilà, le rose fluo.
On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, dernière question, et tu ne peux pas prendre une des tiennes. Si tu étais une œuvre, ce serait...
Une des œuvres de Van Gogh.
D'accord.
Van Gogh, pour moi, c'est le maître absolu de la peinture. Et voilà, ça serait un de mes grands kiffs d'avoir un jour les moyens de me payer un Van Gogh.
Une œuvre en particulier de Van Gogh ou c'est
de son œuvre. Un de ses autoportraits, je pourrais pas donner le titre exact, ouais. que j'ai reproduit à plusieurs reprises d'ailleurs, mm-hmm. qui me fascine. Voilà, il est, avec sa veste bleue, et ses couleurs sont tellement brutes, fantastiques. Voilà, c'est Van Gogh.
Ok, donc là on a fini ce portrait chinois. On va pour cette fin d'interview faire une ouverture. J'aimerais savoir comment tu vois le marché de l'art dans les 20 prochaines années.
Voilà, c'est compliqué. Parce que déjà, moi, je vois même pas ce que je ferai dans un an. Alors,
le marché Clément de nous l'art. A dit pour le premier podcast, lui ne savait même pas dans 6 mois où il se voyait.
Ouais, je te dis un an, mais j'aurais pu aussi dire 6 mois. Hein. Oui. Je ne saurais même pas ce que je ferai dans 6 mois en termes de peinture. Alors le marché de l'art dans 20 ans, bon, on peut dire que j'espère qu'il y aura plus de démocratie, de promotion des artistes qui soient très connus comme émergents et peut-être un peu moins tournés vers l'argent parce que c'est vrai que quand on arrive sur des sphères assez où on dépasse le million, on n'achète pas pour la peinture mais pour l'investissement que ça apporte malheureusement. Donc voilà, j'espère.
Marché à part entière, oui évidemment. Moi, je comprends très bien. Je voudrais savoir, ça c'est une chose très intéressante. Est-ce que tu comptes t'ouvrir à d'autres pratiques dans ton art? Est-ce que aborder d'autres médiums, laisser un peu de côté la peinture, ou peut-être des sujets totalement différents? Est-ce que tu te vois
Comme je te disais il y a deux secondes, non, je ne sais même pas ce que je ferai dans 6 mois, peut-être que je ferai de la photo, de la peinture, de la sculpture, j'en ai absolument aucune idée.
Ouais, pour l'instant, toi, tu vois rien d'autre que la peinture.
À l'heure actuelle, non, mais c'est vrai que ça peut arriver. J'ai fait d'autres choses auparavant. C'est quasiment probable que je ferai autre chose par la suite. D'accord. Mais oui, actuellement, je pourrais pas te dire quoi et en combien de temps.
Et est-ce que tu as des projets un peu plus sur le long terme? Là, tu me dis que tu vois pas trop, mais est-ce que tu as déjà des projets en tête pour le futur concernant la peinture que tu développes actuellement? Est-ce que tu as des projets
projets à échéance,
tu sais, des choses qui...
Disons que j'ai plutôt un objectif, c'est d'arriver à exposer au musée de Picardie. Voilà, c'est l'objectif d'arriver à me faire accepter, d'avoir... on va arriver un peu à avoir une expo personnelle dans le musée pour interagir avec les œuvres qui y sont présentes. J'aimerais bien interpréter, par exemple, la Lady Godiva. Voilà... jouer avec les différentes sculptures qu'ils ont, leur côté archéologique est vraiment très enrichi, avec la Vénus de Renoncourt qu'ils ont acquérie il n'y a pas très longtemps, que j'ai aussi faite en collage dans la rue. Voilà, vraiment, ça serait, l'objectif serait d'aller au musée de Picardie.
Alors, le message est passé, on leur verra le podcast.
Avec plaisir.
Voilà. Et pour conclure ce podcast, est-ce que tu te vois un jour travailler pour une marque?
Bah, vu que je l'ai déjà fait pour Puma et l'ASC, oui, mm-hmm. Bah, y a pas de problème.
Et par exemple, pour je pensais plutôt dans la production d'un produit ou d'une ligne de vêtements ou quelque chose du genre, tu vois.
Bah, moi, je suis pas fermé. Si, mm-hmm. si c'est dans ma vision de la chose, mm-hmm. oui, je vois pas pourquoi ce serait
Il y a beaucoup impossible. D'artistes. Ouais, on parlait du luxe tout à l'heure. Il y a beaucoup d'artistes qui font des collaborations avec des marques. Et j'ai même vu récemment qu'il y avait des artistes qui ouvraient des studios de design, et j'ai vu que Lenny Kravitz avait un studio. Recommence. J'ai vu que Lenny Kravitz avait un studio de design où il produisait des objets, etc. Donc est-ce que toi, bon, je ne te dirais pas est-ce que tu vas ouvrir un studio pour produire des objets, mais est-ce que tu te verrais bien, ouais, collaborer sur un projet avec une marque
Ouais, bah, il n'y aurait aucun,
et voilà,
aurait aucun
et,
problème.
Et quel secteur en particulier, peut-être tu te verrais bien travailler, faire une ligne de vêtements, ou plus dans le luxe, ou plus dans, je sais pas, dans la déco, des choses comme ça
Alors là, pour le domaine particulier, je ne vois pas du tout. Non, ce serait plus sur les valeurs.
D'accord.
J'en ai un petit peu, il n'y a rien à faire que ce soit de la sculpture, enfin du mobilier, du vêtement, ça, ouais. ça m'intéresserait sur le coup, mais là actuellement, je sais pas ce qui m'intéresserait le plus, c'est plutôt les valeurs que cette entreprise ou cette boîte voudrait faire passer, quoi.
D'accord. Et peut-être pour faire un lien avec notre premier podcast, est-ce que tu privilégierais des entreprises locales, donc tu disais avec certaines valeurs, des entreprises qui peut-être mettre en valeur aussi des savoir-faire français. Est-ce que c'est des choses qui
Ouais,
te tiennent
ben.
à cœur parce que tu as eu des commandes au Green Corner, par exemple, où là
Ouais,
il y a un
voilà.
certain souci de l'environnement, etc., même des valeurs très précises. Est-ce que c'est des, voilà, c'est des, pour toi, c'est des choses qui seraient prioritaires pour toi si
C'est
tu
ça,
veux
voilà.
travailler
Il
avec une
faudrait
marque?
qu'il y ait l'engagement pour un thème qui, moi, me semble
Oui,
important.
tu peux pas en tant qu'artiste et selon oui, avec tes
Par
valeurs, tu peux
exemple, je
pas
pourrais
travailler.
pas faire une pub pour un pétrolier, par
Oui,
exemple.
voilà.
Les mecs, ils vont forer le fond de l'océan. Je me verrais pas
C'est intéressant ce
travailler
que tu
avec
dis
eux.
parce que c'est la même chose en fait dans le graphisme. Par exemple, en tant que végétarien, je ne peux pas parce que je dénigre, on va dire, le secteur agroalimentaire, en particulier la production de viande, c'est que je ne pourrais pas mettre tout mon cœur dans des choses où, pour lesquelles je ne porte pas. Mes valeurs sont en contradiction
Ah
en
voilà,
fait.
exactement.
Je les respecte, ils ont absolument le droit à la création, à la collaboration, etc. Mais c'est pas du dédain ou quoi. Mais en tant que graphiste, tu dois y mettre tout ton cœur et tu peux pas dire oui en sachant que derrière tu pourras pas forcément mettre tout ton cœur dans ce que tu produis en
Ouais, et
fait.
puis en plus, tu
Faut
pourrais même.
croire aux valeurs de l'entreprise
Tu
de toute
pourrais ne
façon.
pas y arriver. Moi, si on quand ce que je dis, pour rebondir tout à l'heure aux commandes, il y a des commandes, je leur dis non direct parce que ça va pas me parler du tout. C'est pareil pour les marques. Si leur
C'est vrai ça.
environnement ne nous parle pas, même si on fait un, si même si on arrive à faire un truc, ce sera 20-30 fois moins bien, voire même pourri, par rapport à ce qu'on aurait fait pour une entreprise, auquel on croit, quoi.
D'accord. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que tu as des choses à ajouter, peut-être, que tu n'as pas abordées?
Ah bah non, j'ai enfin, toutes les questions ont été abordées, plus ou moins.
Parfait.
Je te remercie pour le podcast, voilà.
Bah, merci à toi de nous avoir reçus, bah, en l'occurrence, moi tout seul pour l'instant dans l'atelier, parce qu'aujourd'hui je suis seul pour ce podcast. Merci de m'avoir accueilli. C'était très intéressant.
Ouais, merci à toi aussi.
Et à très bientôt.
À très bientôt. Bonne journée.
Bonne journée.